Il est 12h30 sur France Culture. Les informations, Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les syndicats de l'assistance publique en grève contre la réforme des 35 heures à l'hôpital. Le directeur général des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, affirme pourtant que son projet ne signifie pas la fin des 35 heures, mais simplement leur réorganisation. On retrouvera Annabelle Grelier devant le siège de l'APHP tout à l'heure dans le 4e arrondissement de Paris. Le vote aujourd'hui sur les motions au Parti Socialiste. Un peu plus de 130 000 militants votent donc dans les quelques 3200 sections. Le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis espère obtenir une majorité de voix. Analyse avec Frédéric Mettezo. À l'étranger, après 8 jours de combat, l'État islamique revendique ce matin sur Twitter la prise totale de la ville de Palmyre. C'est une position qui ouvre sur le grand désert syrien frontalier de l'Irak. On sera en ligne avec Omar Waman, analyse de Claude Guibal. L'ouverture de cet après-midi à Riga d'un sommet européen auquel participent également les présidents de l'Ukraine et de 5 autres pays de l'ancienne Union soviétique. Correspondance de Quentin Dickinson, l'invité de ce journal, Valerand de Saint-Just, tête de liste Front National pour les régionales en Ile-de-France. Et dans la dernière partie, Caroline.
Une dernière partie particulière, si je puis me permettre, pour clore notre séquence cannoise et élargir le propos à la question culturelle et à la France en général. Nous aurons exceptionnellement 2 invités, Jérôme Clément et Jean-Pierre Vincent, pour poser la question de la place de la culture dans la France de 2015.
Les 35 heures à l'hôpital, donc, le sujet est en débat depuis de longues années. Le directeur général des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a rédigé un projet de réforme de l'organisation du temps de travail qui pourrait toucher dès l'an prochain quelques 75 000 personnes dans les 38 établissements de la PHP. Projet qui ne signifie pas, a-t-il dit ce matin, Martin Hirsch, la fin des 35 heures. Il était sur RTL.
On n'est pas en train de sortir des 35 heures, je suis pas en train d'aller dans la rue en disant au gouvernement « changez-moi la loi, abat les 35 heures ». Je suis en train de dire, il y a 15 ans, quand on a mis en place les 35 heures, on a fait comme si on ne changeait rien. C'est-à-dire, les gens ont travaillé à peu près les mêmes durées de jour qu'avant les 35 heures, sauf qu'on a rajouté des RTT, et puis on leur a dit « on rajoute des RTT, mais on n'est pas sûr que vous pourrez les prendre quand on vous a dit que vous allez les prendre ». Et puis par ailleurs, on a fait les mêmes durées du travail alors que l'hôpital a complètement changé. Donc on doit se réorganiser. Aujourd'hui, ça marche plus. La médecine change et nous, on doit s'adapter. On se met autour de la table et on se dit comment on bosse autrement. Voilà. Alors, je peux redire, ce n'est pas la fin des 35 heures, c'est les 35 heures organisées autrement et ce n'est pas la fin des RTT. Voilà, c'est précis.
Martin Hirsch avec Yves Calvi. Apparemment, les syndicats ne sont pas tout à fait convaincus par cette réforme. La CGT, Sud, FO et même la CFDT ont fait front commun, en effet, avec la CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA. Et les agents grévistes se sont rassemblés tout à l'heure devant le siège de la PHP dans le 4e arrondissement de Paris, où vous vous trouvez, Annabelle Grelier, avec beaucoup de monde.
Et oui, eh bien, Martin Hirsch a beau répéter qu'il ne veut pas un hôpital sans RTT, à la PHP, on n'y croit pas. Et ils sont nombreux, en effet, ce matin, à être venus lui dire sous ses fenêtres, au siège de l'assistance publique, là, tout proche de l'hôtel de ville. C'est justement parce que les agents de l'hôpital public ont vu s'appliquer l'accord sur les 35 heures sans les embauches promises qu'aujourd'hui, la confiance semble être rompue. Cela fait 10 ans que les RTT s'accumulent sur des comptes épargne-temps, que les agents sont rappelés en urgence sur leur temps de repos, qu'il y a toujours plus de patients pour moins de personnel, qu'aujourd'hui même les plus dévoués sont à bout de force. Dans la manifestation aujourd'hui, tous et toutes racontent la même chose, la même fatigue, les collègues en burn-out, en dépression, les vies de famille qui se délitent. Alors les RTT, même si la plupart ne peuvent pas les prendre, c'est un symbole, comme le jour de la fête des mères donné aux mères de famille, les jours médailles octroyés à l'ancienneté, la demi-heure de pause comptée comme travaillée qu'ils ne veulent pas voir disparaître. Réorganiser le temps de travail, comment est-ce possible sans embauche, demandent les syndicats. Si c'est pour travailler moins d'heures mais plus de jours, non, les RTT, c'est pour souffler, ne touchez pas à nos RTT, lit-on sur les banderoles. Ce serait socialement injuste, renchérissent les syndicats, tous unis en effet pour rejeter cette réforme de la réorganisation du temps de travail à l'hôpital proposée par Martin Hirsch.
Annabelle Grelier, merci beaucoup. On est avec notre invité, Valerand de Saint-Just, bonjour.
Bonjour.
Le Front National défend-il les 35 heures à l'hôpital ou...
Le Front National défend le service public. Si vous me permettez, il y a une anecdote qui a couru sur les ondes ce matin, selon laquelle Martin Hirsch était au cabinet de Martine Aubry quand elle était ministre sous Jospin. Il y était vraiment, c'est vrai. Et il lui a dit, j'espère, Madame la Ministre, que les 35 heures ne s'appliqueront jamais à l'hôpital, parce qu'il est habité un peu par ces problématiques, Monsieur Hirsch. Et elle lui a dit, non, ça ne s'appliquera jamais à l'hôpital. Alors, les 35 heures en elles-mêmes ont été une erreur. À l'hôpital, notamment, et dans un certain nombre de services publics, ça a été encore une erreur. Mais surtout, la grande erreur, et c'est ce qu'on entend dans vos reportages, c'est les 35 heures sans les embauches. Il n'y a pas eu d'embauche. Pourquoi ? Parce que maintenant, depuis très longtemps, on a perdu, mais exprès en France, la vraie notion du vrai service public à la française. Et c'est là-dessus qu'il faudrait revenir. Est-ce que l'assistance publique, est-ce que le service public de la médecine d'hospitalisation sont vraiment des services publics ? Si oui, arrêtons, comme dans d'autres secteurs, par exemple à la SNCF, d'avoir toujours, pardonnez-moi la trivialité du propos, mais le cul entre deux chaises, et de savoir c'est ou le service public ou la rentabilité. Alors on a demandé à l'hôpital d'être en quelque sorte rentable, il faut éventuellement poursuivre de ce côté-là. Ou alors on ne leur demande pas et on est vraiment
donc
dans
le cadre... Donc il faut pas leur demander ou il faut leur demander?
Non, il faut pas leur demander. Il faut être dans le cadre du service public. Il faut un budget, il faut éventuellement des embauches et on ne peut pas revenir, évidemment, sur les acquis, même s'ils désorganisent le service depuis très longtemps.
Un tout petit mot encore, Frédéric Mettezo.
Oui, autre tabou, autre totem selon où on se place. Le secrétaire général du Front National, Nicolas Bay, qui est député européen, nous dit « Le FN n'a jamais défendu la retraite à 60 ans ». Il le dit sur le site spécialisé Boursorama, qui est plutôt lu par les investisseurs et les milieux financiers. Alors que Marine Le Pen défendait la retraite à 60 ans. Quelle est la position de votre mouvement sur cette question ?
Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le Front National défend la retraite au bout de 40 annuités. Et que les gens puissent prendre leur retraite lorsqu'ils ont ces 40 annuités.
Donc ils peuvent la prendre à 60.
Quel que soit
il
n'y
a pas
âge.
De volonté de rassurer des milieux financiers ou l'électorat de droite qui serait gêné par votre programme.
C'est ce que nous avons toujours dit. Ça a peut-être été mal compris. Vous me donnez l'occasion de clarifier.
Voilà, on continue de parler politique.
Oui, puisque les militants socialistes votent aujourd'hui sur la ligne de leur parti. Ils choisissent entre 4 textes programmatiques en vue du prochain congrès qui se tiendra à Poitiers le mois prochain.
Oui, ils sont 131 000 militants actifs, selon les chiffres de la rue de Solferino. Ils sont invités donc à voter dans les 3200 sections du parti entre 17h et 22h. Tout à l'heure, on aura des premiers résultats estimations dans la nuit. Le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, qui est à la tête de cette motion A, espère bien obtenir une majorité. C'est la motion qui défend donc la politique du gouvernement. Il y a 3 autres motions, B, C et D, qui espèrent, elles aussi, réunir, mais à L3, évidemment, une majorité, ce qui porterait un coup sérieux à la crédibilité à l'audience de cette fameuse motion A majoritaire, Frédéric Mettezo, c'est bien là l'enjeu pour l'exécutif.
Et oui, l'enjeu pour l'exécutif, c'est comme le confie François Hollande, un parti stabilisé. À 2 ans de la présidentielle, le chef de l'État dit avoir besoin d'un parti qui va monter en puissance et irriguer le débat idéologique. Il a donc besoin d'une victoire nette de la motion A, soutenue par Manuel Valls, ses ministres et Martine Aubry. Motion conduite par Jean-Christophe Cambadélis, le président reconnaît qu'un score élevé des frondeurs, la motion B, retiendrait à ces derniers de la vigueur à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'un bon score ? Jean-Christophe Cambadélis estime qu'entre 48 et 52% sa motion réaliserait un bon score. Difficile de savoir ce qu'il a vraiment en tête. Prépare-t-il les esprits à une contre-performance ? Oui, contre-performance, car souvenons-nous, il y a moins de 3 ans, à l'occasion du congrès de Toulouse, une motion similaire, conduite par le premier secrétaire Harlem Désir, avait obtenu 68% des voix. Et à l'époque, on évoquait un score déjà en demi-teinte. Autre possibilité, dans le cerveau de Jean-Christophe Cambadélis, la stratégie de la tension. Il a été formé chez les trotskistes lambertistes, alors veut-il faire peur pour mobiliser les adhérents ? Car la participation est importante, un frondeur nous expliquait hier que les réunions préparatoires ne faisaient pas sale comble dans les sections. Les partisans de la motion B menée par Christian Paul sont persuadés que les abstentionnistes seront des déçus du hollando-valsisme et que la direction actuelle a besoin d'une forte participation pour faire un bon score. Imaginez si la motion du premier secrétaire recueillait moins de 50% des inscrits, cela ferait désordre à 2 ans de 2017, mais moins de 50% des exprimés, cela ferait encore plus désordre. La motion présidentielle serait minoritaire et il faudrait composer avec les motions concurrentes. Or, comme le reconnaît François Hollande, une synthèse a toujours un prix et c'est malheureux.
Frédéric Mettezeau, merci beaucoup. Valerande Saint-Just, je ne vais pas vous demander de savoir pour quelle motion vous souhaiteriez voter si vous étiez au Parti Socialiste, mais à quand, au Front National aussi, comme ça, des motions, un débat interne qui ne soit pas uniquement fait de ce qu'on pourrait appeler quand même des règlements de compte ?
Non, il n'y a pas que des règlements de compte. Nous avons beaucoup de débats internes lors des congrès avec les adhérents, et lors notamment des bureaux politiques. Mais nous évitons, ça c'est clair, d'avoir des courants ou des tendances comme au Parti Socialiste. C'est un choix. Je pense que ça ne marche pas bien au Parti Socialiste.
C'est une question de méthode ou c'est quelque chose qui reste ancré profondément dans l'ADN du Front National ? Bah, le programme, c'est le chef et le chef, c'est le programme.
Non.
Et circuler, il n'y a rien à voir.
Le programme, ce n'est pas le chef. Le programme est déterminé de façon démocratique, et notamment dans les congrès. Ça, c'est tout à fait certain. Mais il est vrai aussi que nous avons toujours été un parti de discipline et d'ordre, c'est ce que nous voulons être en tout cas, et qu'il y a un programme, et que sur les questions d'actualité, il y a des discussions au bureau politique, il peut y avoir des votes d'ailleurs éventuellement, et quand telle ou telle position est adoptée, chacun doit se ranger derrière, c'est sûr.
Il y a un vrai débat d'échange au Front National, ou quand Marine Le Pen a dit, le Front National
non,
fait
non, il y a un vrai débat d'échange. Par exemple, en ce qui concerne nos difficultés récentes, il y a eu de très très grands débats qui ont porté tant sur le forme que sur le fond. Je prends l'exemple de l'attitude de Jean-Marie Le Pen sur d'autres questions très importantes comme la question du mariage pour tous, etc. etc.
Il y a quand on n'a jamais bien compris la position du Front National en la matière.
Je peux vous la réexpliquer s'il vous plaît.
sur le
mariage pour tous, il y avait deux choses. D'abord, participation de la présidente aux manifestations, ça a été non et ça a été approuvé entièrement. Et en ce qui concerne la loi sur le mariage pour tous, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, nous avons toujours dit que nous étions tout à fait contre.
Une tentative de synthèse quand même. Vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, l'avocat de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes un compagnon de longue date de Jean-Marie Le Pen. Vous lui faites toujours confiance en tant qu'homme politique ?
Écoutez, pour le moment, il est suspendu du Front National. Et ses derniers propos publics ont été un peu, il faut le dire, la goutte qui a fait déborder le vase, et que nous n'avons pas compris la raison et l'utilité de ces provocations successives. Nous les désapprouvons totalement.
Et son nouveau parti ? Il est en formation.
Son nouveau parti, ça serait une association de ses amis, qui ne serait pas un parti. Bon, voilà.
Donc vous pourriez cumuler les deux ?
Mais il n'y a eu aucun remous, d'ailleurs, à l'intérieur du Front National. Tout le monde est sur la ligne et sur la discipline de Marine Le Pen.
Si Jean-Marie Le Pen était jugé pour ses propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi, vous le défendriez ?
Je ne suis plus avocat, j'ai pris ma retraite pour pouvoir
un avocat honoraire peut toujours plaider.
Oui, c'est vrai qu'il peut toujours plaider. Mais les avocats, on ne va pas parler des avocats, ils ne sont jamais la caution morale de leurs clients. Il y a plein de choses à plaider sur le droit, sur la liberté d'expression, etc. etc. Mais quand on m'interroge comme responsable politique sur le fond des déclarations de M. Le Pen, je marque ma désapprobation.
Valerande Saint-Just, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.
Actualité internationale avec la prise de Palmyre qui ouvre sur le grand désert syrien frontalier de l'Irak. L'organisation État islamique est désormais maître de la moitié du territoire de la Syrie.
Et oui, après 8 jours donc de combat, l'État islamique revendique ce matin sur Twitter la prise totale de cette ville. Il affirme que les forces loyalistes se sont enfuies, laissant derrière elles un grand nombre de morts dans leur rang. Palmyre, qui était aussi appelé Tadmour en arabe, situé à 240 km environ au nord-est de Damas. La chute de cette vieille ville de plus de 2000 ans, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, fait évidemment craindre pour le sort de ces célèbres ruines, l'État islamique ayant déjà détruit des trésors archéologiques en Irak. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en tout cas, l'État islamique contrôle effectivement maintenant près de 100 000 km² en Syrie. Ça fait à peu près la moitié du territoire. Et évidemment, Claude Libal, il faut parler de cet enracinement à la fois en Syrie et en Irak, mais aussi pas seulement, car le califat concerne d'autres pays et d'autres régions.
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Daesh contrôle effectivement la moitié du territoire syrien. Il convient, de noter qu'une grande partie de ce territoire est un territoire désertique et non habité. Ce qu'il faut noter aussi également pour la Syrie, c'est que Damas passe, c'est que l'État islamique contrôle la quasi-totalité des champs gaziers et pétrolifères de Syrie. Et au-delà donc de cette moitié de Syrie qu'il occupe désormais, c'est vrai qu'il s'agit d'un territoire beaucoup plus grand et beaucoup plus mouvant sur lequel le groupe djihadiste revendique désormais le contrôle de son califat. Parce que de l'autre côté de cette frontière syrienne, eh bien il y a donc l'Irak. L'Irak dont le quart nord-ouest est occupé par le groupe djihadiste qui a donc conquis la quasi-totalité de la province d'Al-Anbar. Donc on est le long de la frontière syrienne. Al-Anbar avec sa capitale Ramadi qui est tombée le week-end dernier. Et puis son emprise monte jusqu'à Mossoul, hein, au nord. Mossoul qui est tombée l'an dernier. Mossoul là où a été proclamé le califat. Et l'emprise des djihadistes va ainsi jusqu'aux portes de Bagdad avec la ville de Fallujah. En tout, ce sont 25 wilayats que revendique Daesh. Alors les wilayats, ce sont des gouvernorats, des provinces. Elles sont réparties sur 9 pays, la Syrie, l'Irak, mais aussi l'Égypte, le Yémen, la Libye, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan. La plupart du temps, si on ne compte pas la Syrie et l'Irak, eh bien, il s'agit de petites zones où des groupes locaux ont proclamé leur allégeance à Daesh. Et en ce qui concerne Boko Haram, dont on a beaucoup entendu parler, Boko Haram au Nigeria, le groupe a effectivement fait allégeance, mais son territoire, c'est son propre califat, hein, pas encore le califat de Daesh. En tout, les spécialistes disent que 6 à 9 millions de personnes vivent sur des territoires contrôlés par Daesh. On a toujours le plus grand mal à estimer quand même le nombre réel de combattants du groupe État islamique. Les experts sont divisés, on parle de 25 000 hein, pour une fourchette basse à 70 000 hommes. Et puis son concept d'expansion, en fait, Daesh l'a résumé il y a déjà longtemps dans un slogan « se maintenir et grandir ». Sa structure administrative cherche donc à se calquer sur celle d'un État, d'où son nom, avec à sa tête donc le calife autoproclamé Abou Bakr el-Baghdadi, des gouverneurs territoriaux et puis des conseillers, conseillers militaires, conseillers financiers, conseillers médiatiques, bref, des ministres en quelque sorte.
Merci beaucoup Claude Guibal et on revient donc sur cette prise de Palmyre. La directrice de l'UNESCO affirme que toute destruction à Palmyre serait une énorme perte pour l'humanité. Jérôme Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fondation Alliance Française, ancien président d'Arte. On va parler dans la deuxième partie de la grande table de cette question. Qui va financer la culture demain en France ? Ceux qui détruisent la culture, ils sont bien identifiés aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut comprendre, si on cherche à comprendre, cet état d'esprit qui consiste à vouloir détruire comme ça les traces du passé de ces pays?
C'est un grand classique de toutes les invasions et de toutes les guerres, à la fois idéologiques et religieuses. Il faut se souvenir quand même que la destruction du temple juif par les Romains, auquel a succédé la destruction de Rome d'ailleurs par les barbares, l'incendie de Moscou par Napoléon, sans compter le sac du Palais d'été ensuite par les Occidentaux. Chaque fois qu'il y a des grandes invasions, il y a la destruction du passé, parce que comme un témoignage de ce qu'on ne veut plus, on veut construire du nouveau, on veut construire quelque chose. Donc,
est-ce qu'il y a une dimension particulière là aujourd'hui avec les
islamistes ? Parce que à cette dimension, je crois que s'ajoute aussi celle de la remise en cause des frontières mises en place par les Occidentaux en 1918, c'est-à-dire par les accords SICO qui avaient créé la Syrie et le partage entre l'Angleterre et la France, notamment en zone d'influence au Proche-Orient. Donc il y a tout ça qui est en cause dans cette histoire. Alors évidemment, la destruction d'un patrimoine de cette nature est une catastrophe sur le plan historique et culturel, parce que c'est irremplaçable, comme la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan il y a quelques années. Mais malheureusement, ça fait partie d'un ensemble de problèmes politiques qui sont posés à cette occasion et qui ont des conséquences dans tous les domaines humanitaires, culturels, économiques, etc. On est dans une période de grand bouleversement de la zone et c'est pas fini parce que on voit bien que les batailles entre les chiites et les sunnites, à l'intérieur de chacun de ces deux camps, des clans qui s'affrontent comme au temps des croisades. Je relisais récemment l'histoire des croisades d'Amin Malouf, ça n'a pas vraiment changé en fait. Et donc ça se poursuit avec son lot de destructions catastrophiques comme celle de Palmyre, mais qu'il faut situer dans son contexte politique.
Jérôme Clément, merci beaucoup. On vous retrouve donc pour la dernière partie de la grande table. Valerande Saint-Just, est-ce que vous avez, en ce qui concerne cette situation géopolitique, des solutions et des propositions au Front National ?
Des propositions,
des positions en tout cas.
On peut penser qu'il y a là les germes d'une troisième guerre mondiale, parce qu'on n'a pas parlé du rôle de l'Iran. L'Iran, je crois, ne voudra jamais laisser tomber le régime de Bachar el-Assad. C'est beaucoup trop important. Vous avez l'Iran, vous avez le pétrole, vous avez toute la ceinture sud de la Russie, et puis les États-Unis là-dedans. l'Europe, elle, ne fait rien. Est-ce qu'il faut recommencer l'opération de l'Irak, l'opération de la Libye, qui ont été, je crois, quand même complètement ratées? Est-ce qu'il faut recommencer à être les gendarmes du monde? Personnellement, je pense que ça ne peut être qu'à l'ONU de prendre
enfin, là,
de véritables responsabilités. Enfin, là, il y a
peut-être à commencer à choisir son camp, Iran ou Arabie Saoudite, finalement, peut-être. Vous avez un camp particulier?
Non, au Front National, nous n'avons pas de camp particulier entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le camp du Front National dans cette question-là serait de demander à l'ONU de prendre vraiment ses responsabilités. Je ne vois pas quelle autre solution actuelle, la France en tout cas, pourrait envisager.
Voilà, et on passe aux affaires européennes.
Oui, les dirigeants de l'Union européenne et de 6 pays de l'ex-URSS se retrouvent à Riga pour un sommet qui se tiendra à l'ombre de la crise ukrainienne et de Vladimir Poutine.
Ouverture cet après-midi, donc 15h, de ce sommet qui réunit les 28 dirigeants de l'Union, aussi avec les dirigeants donc de l'Ukraine et de 5 autres pays de l'ancienne Union soviétique, avec lesquels l'Union prônait ces pays depuis des années, un rapprochement qui est donc mis à mal par ce conflit en Ukraine. On est en ligne avec Quentin Dickinson à Riga, bonjour.
Bonjour à tous.
Sommet dit du partenariat oriental. Il faut peut-être rappeler ce dont il s'agit, en quoi consiste ce partenariat.
Eh bien, l'idée, il y a 5 ans, lors du lancement de ce partenariat oriental, c'était de proposer un statut permanent d'association avec l'UE destiné à satisfaire les aspirations économiques et politiques de 6 anciennes républiques soviétiques sans pour autant leur accorder le moindre droit à l'adhésion à l'Union européenne. Mais aujourd'hui, il est difficile de cacher que le partenariat oriental ne peut afficher qu'un bilan des plus décevants. À cela, il existe toute une gamme de raisons. D'abord, l'annexion de la Crimée et la guerre menée par Moscou dans l'est de l'Ukraine gèlent dans les faits toute avancée majeure. Ensuite, l'un des 6 pays, en l'occurrence l'Arménie, a préféré rejoindre l'Union économique eurasiatique, une espèce de concurrent du partenariat oriental instauré, on s'en doute, par la Russie. Et enfin, un autre de ces 6 pays, en l'occurrence la Biélorussie, constitue la dernière dictature communiste d'Europe et est donc considéré comme moyennement fréquentable. Le sommet précédent, tenu en novembre 2013 à Vilnius, aura été un désastre diplomatique marqué par la marche arrière de dernière minute du chef de l'État ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, lequel, sous la pression du Kremlin, avait refusé de signer comme prévu l'accord d'association de son pays avec l'Union européenne. Le soulèvement populaire pro-européen à Kiev devait en être le résultat immédiat et la suite est connue. Très logiquement, c'est un fiasco de ce genre que l'on va essayer d'éviter ici, aujourd'hui et demain, même si le prix à payer pour cela, c'est le décalage entre le niveau élevé de représentation et le caractère très limité de l'ordre du jour, car on réunit ici 34 chefs d'État et de gouvernement pour discuter simplement de la levée éventuelle de l'obligation de visa pour les citoyens des 6 pays souhaitant se rendre dans l'UE, pour encourager la coopération en matière numérique et pour inciter aux réformes institutionnelles.
Oui, enfin, ça sera quand même l'occasion pour les 28 d'aborder d'autres sujets de préoccupation peut-être plus urgents. David Cameron veut profiter de ce premier voyage à l'étranger depuis sa réélection pour défendre les réformes de l'Union qu'il réclame maintenant dans le cadre de son projet de référendum sur l'appartenance britannique à l'Europe. Et puis, il y a toujours cette question grecque pour laquelle le temps presse si l'on considère les échéances financières. Interview aux Échos ce matin du ministre allemand Wolfgang Schäuble qui déclare ne pas exclure une faillite de la Grèce et qui se montre en tout cas très réservée sur le troisième plan d'aide. J'imagine qu'on va beaucoup aussi parler de cela cet après-midi, notamment de manière informelle.
Oui, c'est l'évidence même. C'est plutôt en marge de ce sommet qu'il faudra aller chercher l'intérêt de la réunion. C'est cet après-midi, en effet, qu'on abordera en bilatéral ou en petit comité des sujets autrement plus urgents, en particulier les quotas de migrants ou, vous le disiez, le sort de la Grèce. Sur ce dernier point, de l'avis général ici, on approche du moment de vérité, car le 5 juin, Athènes devra rembourser 306 millions d'euros au Fonds monétaire international. Et même si le flou absolu continue à régner sur les réserves et recettes réelles de l'État grec, il est acquis que ce dernier aura ce jour-là le choix entre honorer sa dette auprès du FMI et payer les retraites de ses fonctionnaires. Cela fera au moins un sujet de conversation pour Angela Merkel que le protocole letton, avisé ou espiègle, a placé à côté d'Alexis Tsipras au dîner de travail de ce soir.
Quentin Dickinson, merci beaucoup. En direct de Riga, Valrhon Saint-Just, un dernier mot là-dessus. Est-ce que le Front National soutient toujours Syriza?
Si vous me permettez, à Syriza, oui. en Grèce, oui. Non, le Front n'a jamais soutenu Syriza.
Bon, c'est comme, son
quand Syriza a emporté l'élection, on a dit, tiens, c'est peut-être un vent d'air frais qui va souffler sur l'Europe et tout. Mais si je peux m'exprimer un petit peu sur le sommet de Riga, oui. Mais je vois même qu'à France Culture, faut aussi se dépêcher.
Voilà, malheureusement.
On peut presque relier ça avec ce qui se passe à l'heure actuelle au Proche-Orient, parce que ce partenariat oriental qui concerne des pays comme la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie, l'Ukraine, c'est quand même aller chatouiller l'ours russe de toute façon. Je pense que les membres du Conseil permanent de l'ONU devraient être beaucoup plus solidaires devant cette poudrière qui est de plus en plus vive du Proche-Orient. Je sais que M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré ce matin ou hier qu'il ne voyait pas d'inconvénient à des accords avec l'Ukraine et notamment le versement de tranches d'aide financière à l'Ukraine actuelle, à condition, dit-il, que ça ne se fasse pas au détriment de la Fédération de Russie. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait agir et qu'on puisse être assez solidaires devant, encore une fois, ce qui me paraît, moi, être une poudrière et contient vraiment les germes d'une possible guerre mondiale.
Valérie Saint-Just, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un temps plus calme, plus sec, mais toujours plutôt frais pour la saison, de 15 à 21 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Julien Loquet. Prochain journal, 18h avec Tara Schlegel.